Merci de vous asseoir. Nous allons donc démarrer avec notre programme avec le vice-président de service. O sea que yo no salí porque estaba...
En rojo, así salí.
Ah, en rojo, así
para
salí.
Para mí, sí. Porque yo empecé a hablar y tampoco se me puso en rojo, ¿no entendí?
Ladies and gentlemen. Messieurs, dames, je vous prie de prendre vos places. Voici le début du nouveau programme GTLD. Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur le vice-président de l'ICANN, Kurt Pritz. Bonjour. Merci d'être venu. Nous allons faire l'ouverture du programme du nouveau GTLD. Comme vous le savez bien, plus tard, nous développerons les sujets généraux et le progrès que nous faisons avec la communauté. Tous ces sujets seront traités par le conseil d'administration. Et nous devrons traiter également les thèmes qui présentent des controverses pour pouvoir comprendre, interagir dans cette réunion. Ce sera l'occasion de pouvoir interagir directement avec le conseil d'administration et de satisfaire tous nos doutes. C'est peut-être ma 7e présentation. J'ai un travail où je suis devenu quelqu'un avec des connaissances sur la protection des marques et de la zone racine. J'appartiens au conseil d'administration de mon organisation. Alors, notre agenda sera la suivante. Nous allons parler sur le dernier guide du demandeur proposé, ce qui veut dire que nous allons parler des changements de la première version du guide. Et ce guide, c'est le manuel d'instruction, le manuel de l'utilisateur pour demander les domaines de haut niveau. En plus des changements établis ici, la personne qui a écrit le guide pour la première fois va nous parler de l'évaluation elle-même pour pouvoir améliorer et accélérer l'évaluation, notamment le flux de données Et quelles sont les précautions à en tenir compte pour les processus? L'un des sujets qu'il faut discuter encore, eh bien, nous allons en parler plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est le guide final proposé? L'objectif de ce guide est de résoudre les problèmes en cours. On a présenté cela à la considération du conseil d'administration et nous avons publié un guide final sans plus de commentaires parce qu'il y en a beaucoup et la communauté va chercher la manière de faire des commentaires ou de voter et nous utilisons ce même modèle pour le budget de l'ICANN. Quand nous faisons cela, on vote sur le budget, il y a des commentaires, il y a des modifications que l'on fait. Nous utilisons ce modèle de proposition pour ce cas en particulier. Alors, le conseil et le personnel vont ramasser les commentaires des membres quotidiennement et ils vont tenir compte de vos commentaires. Vos commentaires vont être résumés de manière formelle. Ils vont être soumis à la considération du conseil d'administration. Il est important de reconnaître que le guide va changer pour arriver à un guide final. Le guide va toujours changer parce que on cherche continuellement à améliorer le processus. Certains membres de l'unité constitutive d'enregistrement ont signalé qu'il y avait des sujets compliqués à traiter. Le conseil va voter le guide. Et s'il y a des grands changements, alors on va retourner à la communauté pour analyser justement ces changements qui seront toujours évalués par le conseil d'administration. Le processus et la date de lancement vont être déterminés. Le guide est déjà prêt pour être publié. Où est-ce que tout commence? Beaucoup parmi vous, certainement. On commençait avec un papier blanc et un papier vert où il y avait des formations. Il y avait des objectifs établis pour la nouvelle organisation pour développer le processus et créer des concurrences dans le registre et dans les domaines de haut niveau et assurer une manière stable pour mener à bien tout ce travail. Pour préparer cela, nous avons eu des réunions en 2000 et 2004 où l'on a introduit plus de 7 domaines de haut niveau dans chacune de ces réunions. On est allé dans différentes organisations, on a fait des cours de formation et le GNSO a établi une politique de développement pour rétablir ces sujets dans les recommandations de la politique 19 accompagnées des principes de mise en œuvre établis dans le guide. On a également publié il y a quelques années ce guide pour le commentaire public et l'un des véritables succès du modèle ICANN, c'est justement d'avoir la communauté qui travaille sur à propos des sujets clés de ce guide où l'on traite beaucoup de thèmes. Il y a 7 groupes de travail. Il y en a qui sont présents, qui travaillent sur différents acronymes pour... On travaille sur les sujets concernant les registres de marque du groupe d'application. Le groupe d'application et de support va travailler et va faire sa présentation et son apport pour ce guide du demandeur. Tous ces groupes de travail concernés font un énorme travail, un énorme effort pour que leur travail soit fiable et sérieux. Et cela se voit dans le guide du demandeur. Le guide a été publié en ligne. Et puis, on va traiter la proposition finale La campagne de communication si vaste va garantir qu'à la fin, nous soyons tous en mesure de participer pour pouvoir apporter notre participation à ce travail. Dans le but d'assurer les registres et les registraires potentiels et qu'ils soient informés sur les registres et la protection de la marque et quel est le processus complet. Cela concernera le lancement du processus. Où en sommes-nous après un processus intensif du développement de politique et de la première publication du travail de notre guide? Nous avons essayé d'établir une liste de volets à traiter que l'on a identifiés, des sujets très importants. On a identifié, je répète, certains sujets concernant la manière dont le marché devrait être configuré et d'autres sujets concernant la mise en œuvre. On a beaucoup travaillé au niveau de la communauté, tel que je l'ai déjà signalé, et ceci a fourni des réponses et des solutions pour ce guide du demandeur. Beaucoup parmi vous, vous savez bien que le guide obtenu est standardisé et établit justement les standards de protection des marques pour mitiger les coûts de défense dans les conflits ou les disputes concernant les marques, des mesures pour mettre en œuvre ce projet de litige, et il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. La conséquence sera des bénéfices et des innovations, et tel que le ministre l'a signalé tout à l'heure, nous avons éliminé, entre autres choses, la pauvreté. Nous voulons créer des postes de travail et améliorer la concurrence. Voici des mots très utiles et très importants pour la fermeture ou pour la clôture. Qu'allons-nous faire? Nous allons écouter, nous allons améliorer le processus. Et pour refléter les changements obtenus, je vais vous indiquer la quantité de changements que l'on a mené à bien dans le guide. Je vous montre donc les changements. Vous pouvez voir en rouge tous les changements intervenus. Ce guide est assez long et rapidement, je passe par le document et vous voyez donc les changements du guide en rouge. Je vais vous laisser voir, vous donner le temps de voir tous les changements que l'on a effectués. Je vais passer un peu plus vite alors. Les applications sont validées. Voici un modèle 2. Je crois que c'est vraiment incroyable. J'ai regardé ça ce soir et je me suis rendu compte que l'on a fait un bon travail. S'il y a si vous faites des commentaires, je ne vais pas voir ces changements. Je vais céder la parole à Carole qui va discuter les changements que l'on a effectués si rapidement. Merci beaucoup. Nous allons aller à la partie où l'on a parlé de ce que l'on a actualisé dans le guide, de ce qu'on a mis à jour, à savoir le document préliminaire numéro 4 pour voir quels sont les changements proposés. Le guide est organisé suivant des modules et chacun d'eux représente une phase du processus. Le module 1, c'est l'application, les exigences des applications, les différentes démarches. Numéro 2, la procédure d'évaluation et puis de chacune des demandes. Le module 3, c'est la résolution des disputes au cas où il y avait des objections formelles lancées contre une application en particulier. Le module 4 s'occupe de la contention de strings sur ce qui se passe lorsqu'il y a plus d'un demandeur qualifié pour un TLD en particulier ou un TLD similaire. Et le module 5 s'occupe des dernières étapes du processus où un demandeur décide quoi faire. Puis nous passons à la partie où les TLD font la délégation. Nous allons donc marquer les différents changements dans chacun des modules et alors vous saurez comment les identifier. Dans le module 1, il y a eu certains changements. Le premier, c'est la nouvelle information ajoutée sur les dépendances pour les réseaux. Le batching est un plan de contingence. Le volume est tellement haut qu'on ne peut pas le gérer facilement. Il faut penser à comment ordonner un processus dans ce cas. Dans ce cas, nous avons parlé de l'évolubilité de la racine. Voici l'un des sujets que l'on a discuté le long du processus et l'information, la nouvelle information lié au travail que l'on a fait pour finir le processus et pour estimer les différentes situations et les applications que l'on peut obtenir. Et là, il y a des implications sur la manière de déléguer dans un délai spécifique. Ceci a été inclus au module 1 et puis on va parler de l'éligibilité. Il y a eu des restrictions sur ce point pour les registraires. La plupart ont été éliminées. Alors, il y a une mise à jour dans ce sens. Ceci concerne la nouvelle direction du conseil d'administration par rapport à ce sujet. L'autre domaine mis à jour est en rapport avec le domaine d'analyse, avec le critère d'analyse. Et il y a des détails sur les différents critères que l'on va utiliser. Tout est focalisé en deux zones en particulier, l'historique criminel ou les relations de la confiance commerciale ou les délits cybernétiques que l'on a connus au passé. Voilà les évaluations qui ont été faites. Dans le module 1, nous avons aussi parlé de ressources que nous espérons bien elles seront disponibles pour les demandeurs. Le soutien de différents types pour présenter des demandes de TLD. Il y a une partie au module 1 où l'on va inclure ces ressources. On espère bien cela. Nous allons écouter encore des opinions dans d'autres sessions. Pour finir, il y a des modifications des strings. Il y aura plus de détails là-dessus pour donner plus de clarté à ce qui se passe avec les variantes dans les différents scénarios. Module 2, à l'évaluation, il y a eu plusieurs changements. Tout d'abord, les exigences de string appliquées pour tous les GTLD. Ceci a été mis à jour conformément aux révisions 11.23, par exemple, la révision 11.23. La manière simple de le dire, c'est qu'on élimine la possibilité d'utiliser des chiffres dans un ask, dans un string ask TLD. L'autre partie a trait au nom géographique. concernant les demandes pour un pays ou pour une région. Et il y a des questions concernant les noms géographiques. Il y a une liste additionnelle des régions de l'UNESCO incluses dans chacun des cas. Comme référence, le module 3 parle de la résolution des disputes. Il y a eu 4 cas différents d'objections. Les 3 premiers vont être discutés ici. Le premier d'entre eux a trait aux droits légaux. On a incorporé la protection pour les IGO et les noms des acronymes utilisés sous différentes modalités. Il y a des objections communautaires. Et il y a aussi une certaine quantité de facteurs pour pouvoir faire des déterminations sur ces objections. Ceci inclut une défense complète pour le cas où le demandeur respecte les exigences. Là-dessus, il y a eu beaucoup de commentaires pour les versions préliminaires. Maintenant, on a éliminé cela. Parce que nous voulons qu'il y ait une forte objection de la communauté. Nous avons aussi parlé du processus d'objection de moralité et d'ordre public. Il y a eu un groupe qui a débattu différents points de mise en œuvre pour voir la manière d'y arriver. Le module 3 a été mis à jour avec des recommandations diverses et il y a plus de détails qui vont être inclus lors de cette séance. Avant de passer au module 5, nous parlons de la procédure du string dans le module 4. Et finalement, le module 5 montre certains détails sur le rôle du conseil d'administration vis-à-vis des demandes de GTLD, quel est son rôle dans ce processus. Et ceci... On l'a demandé dans le commentaire, on a demandé plus de clarté dans le processus. Et les 3 derniers points incluent les exigences de l'accord de registre. Ceci est applicable à tous les nouveaux opérateurs de registre GTLD. Le 3e nous parle des marques et des services lancés et basés sur les bases de données. Une partie de ce modèle est le concept de révision de marque. Cela a trait avec un commentaire qui nous demandait plus de définition sur ce sujet. Le URS, le service de suspension rapide, a été mis à jour également. Et... encore une fois, voilà une exigence pour tous les opérateurs de registre GTLD. Ils doivent le mettre en œuvre. Le changement le plus important est celui de raccourcir le temps de réponse URS à 14 jours et maintenir ce processus rapide. Finalement, l'accord de registre a de nouvelles spécifications. La spécification numéro 9 qui contient un code de conduite qui va être exigé à tous les opérateurs GTLD. Ceci a été mis en place comme le résultat des changements au niveau des dispositions de propriété croisée et aussi... pour les données d'utilisateurs et d'autres sujets. Voici ma conclusion. J'invite donc Victoria pour qu'elle nous parle des discussions du groupe de travail et puis après, Kurt va revenir pour finir la session.
Merci. L'équipe de support a travaillé en faisant un travail pour la communauté qui inclut ALAC, GNSO. Et le problème, essentiellement, a été mis sur l'agenda par le GAC. Et donc, on s'est dit à quel type de support va-t-on offrir pour les peuples des économies en développement. Nous devions trouver des idées. Le groupe s'est réuni pour plusieurs mois et est arrivé à un accord pour préparer un rapport qui sera publié en 6 langues. J'espère que vous pourrez tous le lire et nous présenter les commentaires pour pouvoir continuer à vous donner ce support. Dans la première partie, on a défini quels sont les groupes qui devront recevoir ces supports et il nous faut unifier les critères sur ces exigences. Donc, il faut déterminer particulièrement qui a besoin de participer à ce processus et qui non. Donc, une fois définie l'équipe de travail, et on a dû définir ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas encore fait. Et après, il fallait voir comment développer les points de travail proposés. Hein. On nous disait, veuillez travailler plus sur cette question, donnez-vous votre opinion sur cette autre question. Donc, il fallait établir d'autres critères pour définir ceci. Il devait s'agir donc des organisations à but non lucratif ou bien des organisations de services. Et l'un des problèmes qu'il y a eu et la réponse, c'était de la part d'Afralo, hein, et on nous disait que dans plusieurs pays en développement, une organisation à but non lucratif n'est pas possible parfois. Et même, ceci n'est pas bon pour les entrepreneurs. Donc, on devait considérer d'inclure les entrepreneurs dans ces marchés. Et il y avait des restrictions des marchés également. D'autres aspects qu'on a considérés, bon, c'était les applications basées sur la communauté. Il y avait des requéreurs dans les économies en développement et ils étaient une priorité. Hein. Certains n'étaient pas représentés encore sur l'Internet. Et les types d'aide recommandées, c'est... Et par exemple, pour les questions de coûts, il y a 185 000, hein, qu'on dirait que ce n'est pas raisonnable pour ceux qui participent de ce groupe. Et il y a une tendance à réduire le coût de ce type de travail où il faut chercher comment amortir les coûts de ce programme. Certains pensaient que ces coûts ne devraient pas être payés par les personnes participant dans les économies des pays en développement. On essaye aussi de travailler avec d'autres organisations qui puissent nous offrir des fonds pour nous aider à payer à tous ces coûts. Il y a eu des modifications dans les instruments d'opérations financières et nous proposons surtout pour ceci, il y ait une période de 6 à 12 mois, que cela suffit. Hein. Ceci inclura un support logistique, la traduction par exemple surtout, et pour pouvoir comprendre comment remplir les formulaires pour les requéreurs et comment travailler sur ces applications. Nous ne proposons pas de diminuer le niveau technique. Pas du tout. La question est de voir comment améliorer ce support technique, ce seuil technique, disons, avec une meilleure compréhension. Pour tous ceux qui n'ont pas ce sens de la connectivité, nous avons également établi certaines règles pour les registrer, pour l'enregistrement de noms et quand on établit un IDN ou un script IDN dans un territoire où il n'y a pas de registreur, peut-être avec un support. Donc, essentiellement, ce sont les points que nous avons traités. Et je vais vous dire qu'il y a eu beaucoup d'exceptions. Mercredi, nous allons vous inviter à la fin de nos recommandations à vous faire les commentaires et à nous donner votre conseil. Merci. Merci, Avery. C'était très bien. je vais parler de des questions. D'abord, il faut se préparer pour le nouveau GTLD et faire la gestion du processus. Hein, ça, c'est être préparé dans l'opérationnel. Hein, et ceci est lié à comment ICANN et les partenaires se préparent pour faire la gestion du processus d'évaluer les demandes. Et on a développé ces processus, ils sont écrits, il y a un système en ligne qui n'est pas encore abouti, mais qu'on a commencé à le tester. Il y a deux panneaux d'évaluation, des fournisseurs de panneaux hein, qui sont qui travaillent à côté des évaluateurs hein, pour s'occuper du client et donner réponse à ceux qui payent 185 000 $ pour que leur application soit évaluée. Nous participons donc de ces processus d'évaluation avec VeriSign et d'autres sociétés de nom de domaine. Et comment le faire? Bon, l'idée est de mesurer le succès du programme, le succès de notre évaluation. Et du côté de l'autre côté d'ICANN, il y a bon, la vie habituelle, il y a une demande de plus grande capacité d'accomplissement, de pouvoir faire face aux besoins de nouveaux enregistrements, dit Yana. Tout ceci doit s'étendre. Et il y a un plan opérationnel qui explique ceci en chiffres. Et ICANN doit croître également. Hein. Moi, je crois que ce sera intéressant comme partie du débat que nous aurons sur le flux de données. Il y a beaucoup de données associées à chaque application. Et il est important de définir comment manipuler ces données. Il faut parler également de l'aspect sécurité. Je ne le ferai pas, je n'ai pas d'intelligence suffisamment pour le faire, mais nous allons chercher quelqu'un qui le soit. Hein. Et je vais vous parler maintenant de qui recevra chaque information, chaque donnée, et quel est le flux de ces informations vers le système de support de TLD. Et après, ceci ira vers les panneaux d'évaluation dans un aller-retour. Il y a un interjeu, disons, de questions avec plusieurs niveaux de complexité qui peuvent être décrits d'une forme visible, comme on le voit ici sur l'écran, les évaluateurs et les fournisseurs de résolution de problèmes font partie de ce groupe et le public verra une partie de ce processus d'information. Le processus est totalement transparent et dans l'idée de respecter toutes ces questions d'information si sensible, mais qui va avec un accès au public. Et à la fin de la diapo, vous verrez des détails sur ce qui se passe avec les objections, les statuts de rapport, et il y aura aussi des évaluations, etc. Le public pourra voir tout ceci. Vous voyez là le tableau, hein, ceci se verra de cette forme à peu près. On parle de qui aura accès à chaque information, des groupes dans les applications. Nous allons voir ce qui sera disponible et pour qui. Il faut trouver les réponses à tout ce qui est lié à l'aspect financier, qui sera confidentiel. Les registres font un grand effort pour décrire la sécurité des opérations. Tout ceci sera confidentiel. Donc, vous pouvez considérer ceci un début, hein, un commencement, une pierre de Rosetta, hein, et définir les questions. Nous voulons discuter ceci avec la communauté pour être sûr de respecter nos exigences de transparence et de responsabilité et que toute l'information soit confidentielle, parce que tout ceci contribue à la stabilité du DNS également. Hein, et nous devons aussi mesurer le succès. Nous ne pensons pas à mesurer le succès maintenant, hein, parce qu'il serait un peu tard, parce que le processus est déjà conçu. Mais l'idée est de mesurer le succès du nouveau processus GTLD par rapport au nouvel objectif approuvé par le conseil d'administration avec l'affirmation d'engagement. Nous voulons développer une matrice, une métrique qui nous aide à évaluer ces objectifs. Certains des objectifs sont un peu difficiles de quantifier, c'est quelque chose de spéculatif. Cependant, ce que nous voulons faire avec nos propres objectifs internes, c'est de publier les accords. Et c'est quand qu'il y a une évaluation. Bon, il y a un guide qui est en train d'être fini. Hein. Nous pourrons travailler avec la communauté pour voir comment ce guide met en œuvre les recommandations de politique. Ce sera toute une discussion qui se fera à chacune des réunions. Hein. Ceux qui auront des réunions avec le GNSO peuvent dire, bon, voici nos avancements, nous voulons voir quel est le processus par rapport à la politique. Nous avons formé un groupe STI pour la protection de marques en ligne avec les politiques approuvées. Nous pouvons donc commencer à évaluer notre travail et créer des rapports sur le niveau du processus, hein, comment il se déroule. Et au moment de lancer tout ceci, nous pouvons voir quel est l'état d'avancement du processus, quel est l'état d'avancement des applications et si le processus effectivement fonctionne de forme prédictive ou s'il arrive aux objectifs financiers, si on dépasse les objectifs. Je ne sais pas si ça veut dire qu'on a dépensé plus ou moins de ce qu'on avait planifié, mais bon, on devra le voir. Hein. Et il faut aussi évaluer la satisfaction du client. Et finalement, d'après le AOC, nous mesurons les impacts du marché. Et c'est-à-dire une année après le lancement du processus par la délégation de nouveau GTLD. Nous aurons une mesure de ce succès hein, et ceci collaborera avec la communauté. J'espère que ceci vous soit utile. Et maintenant, je voudrais revenir aux questions fondamentales parce que je crois que c'est bon pour commencer la session questions-réponses. Hein. Vous savez qu'en tant que communauté, nous avons identifié 4 questions générales pour la publication du premier guide du requéreur, du demandeur. Ceci est lié à la stabilité de la racine. S'il y a une distribution presque simultanée de IPv6, la signature zone racine, et si ceci va toucher le développement de cette racine, si ceci donnera des fruits en même temps. Et il y a aussi les questions des études économiques, essayer de la meilleure forme de quantifier les coûts et les bénéfices associés au nouveau GTLD au fur et à mesure du déroulement de bénéfices par rapport à la communauté. Hein, si la communauté arrive, si on en quitte les candidatures. Et par rapport aux marques, bon, une recommandation était de ce qui manquait. Il y avait un manque de consistance, de mécanisme de protection de marques sur ce guide, mais les registres peuvent adopter leurs propres mesures et travailler à côté de la communauté et permettre à la communauté de développer des mesures pour les incorporer après. Et finalement, nous parlons de le comportement malveillant. Il y a un comportement malveillant dans le DNS maintenant et nous devons travailler pour garantir la mitigation de ce problème au moment de mettre en œuvre des mesures. Des mesures pour éviter ceci. Hein. Donc, considérons que cette semaine, c'est l'occasion de finir avec ces questions si compliquées pour passer à l'architecture du DNS et à un environnement plus sûr pour les registraires de TLD, pour les registraires de noms de domaine et pour les propriétaires de marques
registrées.
Déposées, non, parce que c'est autre. Et nous cherchons l'opinion des experts. Hein. C'est pourquoi cette présentation sur la formation de certains groupes de base communautaire, nous publions.
Continue to discuss implementation.
Nous avons publié certains cas sur le rapport. Nous continuons à discuter des propositions des mises en œuvre. Qu'allons-nous faire donc? Nous voulons faire le suivi de l'effectivité de ces mesures et comme un exemple, je travaille avec des économistes pour quantifier l'effectivité de la nouvelle protection de marque. La réponse est oui, nous pouvons le faire, hein, mais c'est un peu spéculatif. Ah non, non, il y a une correction. Hein. On ne peut pas le faire. Hein. C'est trop de spéculation. Mais nous voulons mesurer le succès de ce marque d'une forme qui permette de maximiser le bénéfice pour toute la communauté. J'ai certaines diapos qui seront un peu répétées parce qu'on a beaucoup parlé de déjà et ça se répète. Mais je veux vous dire que nous aurons des sessions sur les questions générales pour pouvoir discuter hein, tout ceci. Vous pouvez me poser des questions et il y a une partie du personnel qui pourra vous répondre également à vos doutes et vous aurez toujours l'occasion de présenter toutes vos questions aux membres du conseil d'administration. Hein. D'autres personnes pourraient répondre, peut-être, mais par rapport à la stabilité de la racine et la discussion sur cette question, bon, ceci, c'est les télés, ce sont des numéros fantastiques et nous attendons de 18 à 25 délégations pour discuter cette question et pour appliquer les processus d'évaluation pour les GTLD. Et parce qu'il y a des milliers de TLD qui sont délégués. Dans les discussions, ceci finalement nous apportait un certain accord sur le TLD et sur la stabilité du DNS. C'est mon téléphone qui sonne, je m'excuse. La deuxième étape de l'étude économique a été publiée et nous remercions tous vos commentaires à cette étude. Et on demande au conseil d'administration de le lire. Et mercredi, il y aura une discussion sur ce que vous aurez lu sur ce rapport économique. Et on va également traiter certains commentaires, mais pas tous, parce que je crois que vous-même, vous devez lire ceci. Et ce sera publié. Et ça va servir comme un prologue et ça nous montrera l'expérience de ce qu'il y a déjà sur le TLD pour prévoir le futur et donc discuter à partir de ça ce qu'on devrait considérer pour l'avenir. Si on va parler d'IDN, de TLD basé sur la communauté, si on va considérer la fréquence d'enregistrement, si on va considérer l'effectivité de la protection de marque ou quels mécanismes on devrait utiliser pour plus d'efficacité et quels seront les bénéfices pour les utilisateurs dans chacune des étapes et l'établissement de points MRSC, marque, parmi d'autres. Le rapport montre également la difficulté pour définir le futur de développement et nous savons que l'innovation est difficile à prédire, hein, mais nous pouvons le faire quand même. Et en ce qui concerne la protection de droits, voici un graphique. Ceci est avant le lancement et l'exigence pour un TLD. Bon, s'il y a des réclamations auprès de l'IP, Donc, on a besoin de certains donneurs pour pouvoir faire tout ceci. Il y a eu une expansion rapide et uniforme. Après, un arrêt également rapide et uniforme pour diminuer la violation de droits de marque pour les différentes parties. Et on a présenté des recommandations à ce propos. Ce sont des protections qui n'ont pas été mises en œuvre auparavant et il faudra voir quelle est l'effectivité. Ceci sera déterminé par les parties en jeu. Ce sera la tâche qui nous occupera au futur. Je ne veux pas lire tout ceci, mais ce sont des solutions pour atténuer les comportements malveillants qui font partie du guide. Il y a une exception, le TLD de haute sécurité, qui vont continuer dans un programme volontaire opéré de forme indépendante par ICAN. Mais pour le reste, il y a de nouvelles formes d'atténuation. Nous allons le traiter, mais en tout cas, ceci nous aidera à avoir un meilleur code de conduite sur le registre. Nous avons consulté les experts de l'industrie pour développer ces questions et les inclure dans le guide. Bon, avons-nous fini? Non, évidemment, il y a beaucoup à faire toujours pour améliorer ceci. Et la question, c'est si tout ceci se trouve dans un chemin critique pour le lancement d'un nouveau processus TLD et si l'évolution continuera avec une amélioration à fur et à mesure de notre croissance. Nous avons besoin d'améliorer les exigences de quiz, la vérification des clients, éliminer ou améliorer les services de privacité. Nous pouvons beaucoup travailler avec les développements des politiques, mais nous devons mettre les quiz pour avoir les idées avec une bonne information. Nous devons faire le suivi de la stabilité de la zone racine et la disponibilité de données réelles sera nécessaire pour améliorer ce changement. Je vous encourage à vous occuper de ces questions générales cet après-midi. Je crois que c'est une bonne idée. Il y a deux autres questions que je veux vous présenter et vous pourrez présenter vos questions après. L'intégration du protocole d'abord, le VI. Je crois que tous les utilisateurs et en particulier ceux qui s'intéressent à acheter un domaine de premier niveau, c'est qui peut demander un domaine de haut niveau? C'est ça l'une des questions posées par le GNCO dans la politique. Nous avons reçu des rapports très sérieux d'experts économiques sur la séparation critique à deux occasions. Il y a eu beaucoup de propositions pour l'intégration verticale qui attaquent cette question. Un groupe de GNCO peut beaucoup travailler pour développer différentes options, mais à la fin de la journée, le Conseil a voté pour permettre la propriété croisée et a décidé de ne pas réguler le marché parce qu'il considère que la régulation peut être peu effective ou très chère, mais il y a la question de l'intégration verticale est séparée de l'abus de données avec un registre et un registreur combiné. Nous allons donc traiter cette question par un code de comportement et des mécanismes pour le respect de tout ceci. Donc, nous avons beaucoup parlé de rationalité et de décision du conseil d'administration. Et au moment de publier l'information, le conseil veut des détails plus complexes sur comment ce processus se développe. C'est la forme de communication du conseil avec la communauté. Et À fur et à mesure de l'augmentation d'analyses faites par le Conseil et de leur publication, on pourra parler de l'intégration du protocole. Nous devons faire confiance aux décisions et au Conseil économique des différents rapports, le Conseil légal également, et nous écoutons la communauté, évidemment. Et maintenant, je voudrais faire une pause. Parce que le Conseil a consacré des journées et des journées à l'analyse de ces sujets. Ils ont beaucoup travaillé et je peux beaucoup vous dire que c'est vrai. Des centaines d'heures, littéralement. Moi, personnellement, je me consacre à la compréhension de ces thèmes si complexes. Et je continue maintenant. Hein. Le groupe de GNSO n'est pas arrivé à un consensus. Le Conseil aurait eu une position de consensus par rapport au GNSO, mais donc il a dit que les accords actuels sont en négociation et qu'il n'y a pas d'interdiction historique sur ceci. Et cette décision a une certaine rationalité, elle a déjà été publiée et il y aura d'autres. Et nous allons maintenant passer au mécanisme d'application associé à ces entités. Il y a un code de comportement qui interdit le mauvais emploi de données. Se trouve dans la dernière page de l'accord de base. Il y a des sanctions prévues. ICANN habituellement passe ceci à l'autorité de compétence. Il y a un ensemble de protection de données et il faut parler du respect et de l'accomplissement parce qu'on parle beaucoup de ce département d'ICANN. L'effectivité des actions, c'est ce qu'on doit faire. Donc, et donc, comment cet accomplissement va continuer avec les nouveaux GTLD, avec ce lancement, on devra le voir, mais le département continue à travailler avec un haut standard. Dans la période d'août-novembre, le département d'accomplissement ou exécution a reçu 1600 notifications d'exécution. Et bon, il faut faire quelque chose avec ce chiffre-là. 75% de non-respect ont été améliorés. Donc, il y a peu de notifications de contrats si on le considère par rapport à ce chiffre. Mais si nous divisons 1600 hein, par la quantité de jours ouvrables, bon, c'est beaucoup. Et je veux dire que la plupart des notifications portent sur oui ou sur le transfert. Il y a certains registraires qui se sont retirés. Donc, on fait un effort pour éliminer les registraires qui ne remplissent pas les exigences ou qui ne respectent pas certaines questions. Hein. C'est un effort de 6 mois de travail qui peut arriver jusqu'à 3 ans, jusqu'à 2 ans, et pour éliminer plusieurs registraires. Le département d'exécution ou d'accomplissement fera un bon travail hein, et ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et si nous revenons au nouveau GTLD et à la moralité de l'ordre public, nous pouvons dire que ça a été toujours une question compliquée, qu'il y a eu des longs débats et des discussions pour améliorer tout ceci. Et dans les derniers mois, un groupe croisé de SOS, GAC, GNSO, ALAC ont travaillé en commun. C'est un modèle fort d'ICANN pour évaluer ces questions. Et nous pouvons parler maintenant de mise en œuvre des politiques. Nous pouvons traiter les questions sensibles sur les strings ou chaînes. Et dans le guide, nous avons adopté 7 des recommandations de ce groupe de travail. Comme changer le nom, par exemple. On n'est pas sûr si c'est le nom approprié, mais on a traité l'objection aux limitations de l'intérêt public en incorporant un nouveau traité du groupe. Et pour clarifier vraiment qu'on fait confiance au principe du droit international, ceci identifie une série de nouveaux processus pour encourager les demandeurs à identifier les chaînes sensibles et un nouveau mécanisme où la gouvernance et le Conseil puissent proposer des modifications sans objecter ces demandes plus sensibles. Et nous avons également considéré que les participants de ce panel qui ont pris des décisions ont considéré les chaînes et d'autres questions liées au TLD et au processus. Donc, il y aura également une session consacrée à ces questions plus tard ou ce soir pour évaluer quel est le rôle du Conseil, quels sont les guides politiques pour créer un processus de résolution et pour considérer ces résolutions pour résoudre les discussions, les différends, quelles sont celles qui sont présentées par le gouvernement ou d'autres secteurs de la société. Le Conseil a besoin d'avoir une compréhension générale de ces gestions, augmenter les standards, la compréhension et de permettre plus d'objections pour la moralité et l'ordre public. Donc la discussion devra continuer pour arriver à un accord sur les différences et sur les points futurs à traiter à ce propos. Et pour revenir à cet après-midi, bon, j'espère que vous vous amusez maintenant. Vous ne devez rien vous perdre. Et cette session sera suivie maintenant par une discussion sur la moralité de l'ordre public. Mardi, il y aura une présentation pour le nouveau GTLD. Ce sera une discussion fondamentale. Et mercredi, il y aura des panélistes qui vont présenter et apporter leur expérience dans le processus de développement. Il y aura des participations de la communauté qui donnent des conseils sur le TLD. Et nous allons également avoir des discussions et des entretiens avec les titulaires de marque pour pouvoir faire des apports aux demandeurs et au processus de GTLD. Et avec ceci, je vais finir pour donner lieu aux questions du public et le personnel d'ICANN va vous répondre. Merci.
Bonjour. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, la clarification ou l'éclaircissement des structures. Quand est-ce que l'on va commencer la session publique avec le GTLD et avec le Conseil? Ce sera cet après-midi, demain matin, mercredi. Ce sera quand? À 3h15 cet après-midi, nous allons traiter les sujets généraux lors d'une discussion avec le Conseil d'administration. À 5h30, il va y avoir une discussion sur l'ordre public et la modalité avec les membres des conseils. Et voilà les discussions auxquelles vont participer les membres du Conseil. Je tiens à faire quelques commentaires sur tes commentaires. J'ai l'impression que il y a encore certains commentaires qui n'ont pas été approuvés par le Conseil d'administration et qu'il peut y avoir en quelque sorte certains points toujours ouverts aux discussions et susceptibles d'être modifiés. Mais il y a aussi des sujets que je voudrais mentionner. Par exemple, les exigences, les conditions requises. Il y a eu beaucoup de communautés qui présentent des besoins et ces processus ne sont pas tout à fait accessibles. Alors, il faut essayer de traiter cette problématique et voir comment on s'en sort de ce problème. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus pendant longtemps et ils ont travaillé sur un fonds financier ou une base financière importante. Il y a eu d'autres sujets concernant les accords contractuels des politiques de prix. Et je pense à cela parce que, comme vous le savez bien, on essaie d'avancer
Sur les sujets concernant les prix, nous avons besoin d'avoir autant de visibilité possible. Pour ce qui est des prix, nous devons avoir l'occasion de discuter à ce sujet. Il y a aussi d'autres thèmes. Les unités constitutives des enregistreurs vont signaler ces problématiques. Nous devons avoir la considération et voir quels sont les sujets qui vont être approuvés par le Conseil. Peut-être le Conseil ne va pas approuver l'accord des enregistreurs tel que prévu. C'est ça ce que je voulais vous dire. Merci. Je crois que ceci est résumé dans un demi-page. On peut le résumer en 48 points. Je crois que nous avons le même esprit pour ce qui est des principes des accords et les prix aussi. Mais je crois que ce qui est signalé dans l'accord n'est peut-être pas trop clair. Il faudrait travailler là-dessus. Nous devrons marquer certains points, 4 ou 5 points, pour pouvoir les traiter. Je vous remercie. Je m'appelle Marilyn Cade et je parle à titre personnel. Maintenant, je fais ma présentation à titre personnel. Je crois qu'il faut clarifier quelque chose. Et hier, j'ai participé d'une réunion du résumé du GNSO, à savoir l'organisation de support de non générique. Et il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. On a posé la question suivante. Comment retenir les évaluateurs et comment ils continuent le processus? La réponse a été la suivante. Ils se maintiennent. Et alors, nous allons sélectionner les évaluateurs, mais nous ne signons pas de contrat avec eux. Il n'y a pas de contrat conclu. Ma deuxième question est la suivante. J'ai un problème de compréhension là. Ce PowerPoint, je ne le comprends pas. Et je crois que nous, comme communauté, nous devons bien comprendre de quoi on parle. J'ai lu l'étude économique de phase 2 vendredi dernier, qui contient certaines informations. Si j'ai bien compris, le Conseil reçoit constamment des mises à jour. Cependant, le PowerPoint, je n'arrive pas à bien le comprendre parce que s'il n'y a pas de nouvelles informations qui soient présentées, je crois que nous devons déterminer la manière dont on va traiter et dont on va considérer cette nouvelle information et faire les ajustements nécessaires. Je voudrais signaler aussi que je suis familiarisée avec les produits et services. Et je connais bien ce que les CI font. Je crois que nous devons nous assurer de recevoir les mises à jour correspondantes. Je vais revenir à ce point parce que si nous sommes ici et nous donnons de l'information et nous donnons du conseil et nous évaluons ce que l'on nous dit, eh bien, je prends le micro et je me dis, eh bien, il y a de nouvelles informations et on est préoccupé pour ce que l'on nous présente. La question est comment nous rendons-nous compte que cela est correct? Voilà ce que je veux dire. Je vais commencer par ta dernière question. Je crois que le processus donne réponse à toutes ces questions qui sont posées. Tous les changements requis sont mis en œuvre au fur et à mesure, suivant les besoins de la communauté. C'est un processus assez compliqué. Le guide a beaucoup de points en rouge. Et on travaille avec les effectifs Pour lancer un processus stable, nous travaillons continuellement en collaboration. J'ai travaillé avec le Conseil bien plus que dans d'autres occasions. Nous avons eu des réunions personnelles pour traiter les nouveaux GTLD. Nous avons eu également des téléconférences et ils écoutent activement ce que la communauté manifeste. Mais ces commentaires sont entendus. On écoute vos commentaires. Le conseil d'administration dit qu'il faut qu'il y ait un temps pour analyser tout cela, pour pouvoir le voter. Mais c'est le conseil qui comprend cela. Merci beaucoup. Je m'appelle Brett Foster et je considère les prochaines démarches d'application du GTLD en 2004. Il y a eu une, ICANN a donné une période très utile de public à partir de la publication du guide jusqu'à l'ouverture de la fenêtre pour l'application. Voilà le processus et peut-être pourrait-on dire que dans ce processus... Eh bien, j'ai une question par rapport au point numéro 34. ICANN donnait la réponse à toute la communauté pour que tout le monde puisse l'avoir. Je pense que de 2000 à 2004, on a posé beaucoup de questions comme celles-ci qui ont été positives et qui ont beaucoup aidé. On travaille de manière ordonnée. Je m'appelle Amadeo Abreu. Je vous demande de me signaler, de me répondre à trois questions brèves. Dans l'accord, dans la version préliminaire de l'accord, il y a des points qui concernent les accords avec les organisations du gouvernement. Ceci inclut les gouvernements des États-Unis et également des secteurs comme par exemple le Commonwealth ou l'État de New York ou la ville de New York. Parce que nous avons certains problèmes vis-à-vis de droit et de juridiction. On a dit aussi que, suivant le brouillon final, la version préliminaire finale, la même entité pouvait être registrat et registraire. Mais il y a beaucoup de gens qui c'est-à-dire ne voient pas clair ce concept. Et il faut donc clarifier cette double fonction. Troisièmement, je vous pose la question sur la caractéristique unique des noms lors de l'évaluation de la communauté. Et les noms qui ne sont pas uniques dans la même région géographique, par exemple, au point numéro 2, par exemple, le point DOT, peut-être confus, parce qu'en anglais, peut-être ceci signifie quelque chose et dans une autre langue, cela veut dire autre chose complètement différente. Alors, c'est confus, finalement. Si on cherche le mot dans le dictionnaire, cela a encore une autre signification. Par exemple, nous avons le AOS, le point AOS, qui est une abréviation. C'est pour le son, n'est-ce pas? Et c'est la même chose pour le point com. Alors, il y a un conflit par rapport à ce qui est global, pour ce qui est de l'anglais et pour n'importe quelle langue dans le monde. Pour moi, ce n'est pas clair lorsqu'on lit le guide. Et finalement, on a la requête de commentaires. La requête et les commentaires, pardon. Nous avons traité avec des évaluateurs internes qui n'appartiennent pas à ICANN, mais ce sont des experts de CDS. Il devrait y avoir des évaluateurs externes, peut-être. Il y a des questions qui sont confuses et pour éviter les malentendus, il faudrait penser à fournir dans le système une ressource interne pour la communauté, pour le staff, pour qu'ils puissent en quelque sorte voir les commentaires écrits et que tout devienne plus clair. Vous pouvez m'aider pour ce qui est de la gouvernance internationale ou les types de contrats appliqués à des gouvernements ou à des gouvernements étatiques. Nous allons essayer de clarifier ce point. Un commentaire sur la propriété croisée. Ce commentaire a été très bon. Je veux faire la distinction suivante. La propriété croisée ou la différence entre registrar et registraire est quelque chose qui nous habilite pour fournir des services de registre. Pour ce qui est de la clarification de l'unicité, eh bien, on va en tenir compte. Jonathan Zuck, quand tu es arrivé à la diapo sur le succès, ça m'a vraiment impressionné. Mais je crois qu'il y a un concept assez abstrait lorsqu'on parle des mesures. Il y a des choses mesurables, il y a des objectifs mesurables ou il y a des objectifs pour ces mesures et voir s'il y a une manière de les mesurer en définitive. Il y a certaines mesures au niveau du conseil. On a demandé une session où le staff puisse se présenter pour pouvoir recevoir le feedback ou la rétroalimentation du conseil d'administration des mesures spécifiques. Quand est-ce que cette réunion va avoir lieu? C'est une réunion privée, c'est un atelier du conseil. Je voulais vous raconter que le conseil a les mêmes intérêts que vous. On parle de la spécificité des mesures. Merci. Merci, Kurt. Pendant les dernières 11 années, c'est ma réunion numéro 35 d'ICANN, et lors des 11 dernières années, j'ai contacté les candidats de GTLD approuvés par ICANN. J'ai travaillé avec un numéro de candidats jusqu'à la fin des processus et je crois qu'ICANN doit commencer la clôture de ce processus. Il y a trois points que je veux signaler. Premièrement, je veux parler sur l'importance du travail fait par ce groupe de travail et parler de quelque chose que l'on a signalé auparavant sur l'importance d'éliminer la pauvreté comme l'un des objectifs qui pourrait servir au nouveau GTLD. Et pour ce qui est des commentaires du fonctionnaire colombien lors de la cérémonie d'ouverture, je vous demande combien de temps la famille colombienne moyenne, combien de temps ça leur prendrait pour demander un nouveau GTLD à ce jour? Je ne sais pas, je sais que pour moi ça prendrait beaucoup de temps. Mais nous comprenons votre question. Eh bien, ça prendrait 14 ans. Nous allons maintenant au point numéro 2. Je ne sais pas. Je vais laisser cela au reste du panel. Nous allons donc au point numéro 2. Ceci a trait à l'économie, encore une fois. Il y a 2 ans, j'ai travaillé sur les négociations et les renégociations du contrat de coopération ICANN. Et les termes que l'on a accordés, c'est que la registration de 50 000 noms soit faite à $50 par an. Il y a eu un nouveau contrat pour que ces 50 000 noms représentent maintenant $25 000. Il y a eu une augmentation du 5% en 2 ans. Et ceci ne fait pas partie de la récupération du coût, mais de l'opération qui est en marche. Alors, je vous pose la question suivante. Et je voudrais une explication. Dans le budget, peut-être, cela fait partie des engagements sur l'explication de ces décisions. On pourrait expliquer l'augmentation de 50% parce que j'ai entendu quelque chose sur les GTLD. On parlait de l'épargne au niveau du coût, le 5% d'augmentation, le 500% d'augmentation dans les revenus. C'est quelque chose qu'il est difficile à concilier. On parle d'une augmentation de 500% dans les honoraires de représentation, mais pas pour la quantité d'accords, mais tous les GTLD vont devenir des musées en quelque sorte. Les honoraires des transactions sont différents et nous devons établir une base très solide. Qu'est-ce que l'on va entendre ici aussi? On va entendre parler des coûts élevés de l'accomplissement, le monitorage de l'accomplissement des registres avec de nouvelles protections pour les marques, de nouvelles obligations pour les registres. Et il faut que nous pensions que 25 000 $ d'un employé très chargé, très occupé, quelque chose comme un sixième d'un employé. Nous parlons de l'accomplissement de Yana. Nous voulons fournir des services à la communauté et au registre, aux services de manière compétente. Et pour nous, c'est-à-dire, nous avons toujours des numéros, mais 25 000 $, ça fait un peu peur par rapport aux initiatives et aux services à la communauté qui sont assez chers. 25 000 $ peut être considéré comme une somme élevée, mais dans le moindre point COP, il y a des registres petits. Mais nous devons penser à accomplir notre mission et penser à un monde de plusieurs centaines de registres, c'est quelque chose que l'on peut faire. Nous pouvons aller dans un cocktail et écrire quelques chiffres. Je veux mentionner quelque chose que j'ai déjà signalé pendant les 3 années que j'ai participé du Conseil. Je veux revenir à ce Conseil. J'ai participé du Conseil financier et ICANN doit récupérer ses coûts. Alors moi, j'ai signalé le fait de mettre à jour des formulaires de coûts ou de temps. Il faut parler de discute de ARP. UDRP dans certaines années d'opération. Si l'on va opérer avec mécanisme de récupération de coûts, il serait utile de voir les ressources que l'on va allouer parce que peut-être il y a des registres, des petits registres qui puissent représenter plus de 25 000 $. Ce sera donc une manière responsable de contenir les candidats et ceci concerne un point que j'ai mentionné hier. Une partie d'un produit final que vous êtes en train de tester. Le point 4 était présenté aujourd'hui, c'est-à-dire si l'on présentait une application, et je ne crois pas qu'ils arrivent à faire le processus. Je crois que c'est une question que le Conseil doit se poser parce que s'il y a un certain succès en 2004, par exemple, il y a une dispute de marque. Et ce qui est le plus important, c'est que du point de vue de ces marques, il y a des pages indexées à Google. Et on peut voir les prédictions pour l'avenir. Et je propose de revoir le processus de point 4. Steve, je veux dire que le point COP, à 0 URDPS et ceci n'a pas causé aucun problème. Ce n'était qu'une plaisanterie, hein? Mais sérieusement, pour répondre sérieusement à votre question, le processus doit répondre et doit tester des noms. Et point 4 signifie catalan. et dans d'autres régions, ça peut être une autre signification. Alors, si on parle de point 4, ceci va avoir une évaluation élevée. Mais je voulais aussi signaler le succès atteint par le domaine .cat. Pour ce qui est des commentaires faits à Bruxelles et le composant singulier ou unique du TLD, ça me surprend que cela n'ait pas été publié dans le dernier guide de candidature. Vous parlez du composant d'une seule lettre? Oui, justement, à la racine d'un million de TLDS. Eh bien, le procès est actuellement limité. Pardon, il n'est pas limité de cette manière. Il est limité pour ce qui est des taux de délégation par l'économie mondiale. Ma question est la suivante. Comment allez-vous faire pour maintenir cela? Eh bien, nous allons évaluer le processus de candidature ou d'application et nous allons le considérer. C'est quelque chose de très restreint alors. Eh bien, cette partie, c'est limité, mais la prochaine fois, ça pourrait être illimité, n'est-ce pas? Pour ce qui est des corrections réalisées dans la dernière version, je crois qu'il y a eu une grande quantité, un grand nombre, et franchement, je crois qu'il y a beaucoup de points à traiter. Il y a des centaines, des milliers de GTLD et comme suggestion, je peux dire que il faudrait tester tous les commentaires, vérifier tous les commentaires. Je vous remercie de votre commentaire. Ron Anderf, je suis membre de l'unité constitutive commerciale. Je suis heureux de voir que l'on a noté une différenciation au niveau du marché. Voilà une des mesures que l'on considère à l'Union dans les regroupements d'affaires et dans d'autres regroupements. Nous analysons ce sujet et nous considérons la différenciation. Alors, ma question serait la suivante. Pourrais-tu nous donner une définition de la différenciation de marché? Et deuxièmement, la deuxième question concerne le respect ou l'accomplissement. Il faut respecter les statuts, il faut remplir les formulaires. Et il faut un temps pour ce faire. Alors, le conseil d'administration a pris la décision de permettre l'intégration verticale. Et si nous considérons historiquement le processus, nous voyons que cela est le plus important, une des choses les plus importantes que l'on a réalisées. Je vous prie donc d'expliquer cela à la communauté. Oui, j'apprécie votre dernier commentaire et après dire, j'anticipais mon idée pendant la présentation.
Le département d'exécution a mené une bonne tâche, très efficace, et moi, je comprends les préoccupations de la communauté. Je connais ce qu'on fait et combien on travaille. Et je crois que ceux qui travaillent à l'unité d'exécution le font d'une forme très bonne. Et je voudrais décrire synthétiquement. Je voudrais vous dire que l'environnement régularisé exige beaucoup plus de standards d'accomplissement ou d'exécution que ceux qui ne le sont pas. Le personnel d'ICANN s'occupe de différentes tâches qui ne sont pas seulement liées au DNS, et ceci va ajouter une valeur au DNS. Je crois qu'avec l'établissement d'un environnement régularisé, nous devrons nous concentrer sur les activités d'exécution pour ajouter une valeur. Et en ce qui concerne la différenciation du marché, il sera difficile de mesurer a priori, mais et c'est quelque chose qu'on a déjà traité avec les économistes pour voir ce qu'ils considèrent, ce qui est leur opinion. Mais je ne crois pas qu'on puisse établir de mesures spécifiques à ce propos, parce que si on considère même les catégories des GTD, nous savons que ce sont difficiles d'établir. Et comment établissez-vous la différenciation sur le DNS? Ce serait une déclaration claire, c'est-à-dire nous avons besoin de la connaître. Il y a une racine partagée et nous devons garantir que cette racine soit mise en œuvre avec le processus correct. Et Internet, ce n'est pas comme ça. Nous avons une seule racine et nous devons garantir la différenciation sur le marché, qu'il n'y ait pas d'espace cloné, hein, parce que sinon ce serait une catastrophe. Et je suis de Point Musique et j'ai une question sur la communauté. Et y a-t-il de forme d'avoir un nom non propre? Ce programme GTD, c'est le programme générique de nom de premier niveau, mais quand on parle de marque ou de région, ce ne sont pas de noms, ce ne sont pas de noms propres, ce ne sont pas génériques. Donc, il y a une composante dans le guide qui parle de questions plus génériques. On parle des organisations commerciales, par exemple, et on dirait qu'il n'y a pas de forme pour obtenir un haut niveau des points. Et bon, il en doit parler au public pour créer un support et le guide dit bon, qu'il faut créer deux ou plus de groupes. Et moi, par exemple, j'apporte 20 organisations. Hein, il y a ici 20 organisations contre 2 contre. Ça veut dire que moi, j'aurai 14 points. Il y a une sorte de compensation on devrait publier pour avoir plus de soutien. Et pourquoi il n'y a pas de points pour la différenciation de TLD? Qu'est-ce qui me différencie d'autres demandeurs? Hein, c'est très important pour moi, ceci. Vous devrez le considérer, je crois. C'est l'ouverture, la transparence sont importantes. Ceci devrait faire partie de tout ceci parce que je vois qu'on va recevoir 2 points pour le support hein, et d'autres par le vin qui s'oppose à ce que nous faisons. Il y aura toujours de l'opposition. On ne trouvera jamais 5% de tout. Donc on dirait que même dans une collision de l'industrie, il y aura des différences parce qu'il y en a qui ne veulent pas que ceci ait un succès. Donc, comment faire face à tout ceci? Moi, j'espère que la partie communautaire de l'application. Bon, est-ce qu'un générique peut obtenir 16 points? Oui, non. Comment faire l'innovation, la différenciation, un système de points qui reflète tout ceci? Hein? Donc, quand tu disais 16, tu voulais dire 14 en réalité? Moi, je commence par 14 parce que je suis sûre de recevoir 2 perdus par l'opposition. Donc, ton commentaire est très bon. Hein? Nous allons l'écrire et nous allons l'envoyer. Quand j'écris quelque chose, on ne me répond pas. Comment garantir une réponse? Oui, nous allons lire le commentaire écrit Oui, je vais le faire. Kurt, il a un purse. Merci. De ce que tu as fait jusqu'ici. La cérémonie d'ouverture a été très belle ce matin et j'ai entendu Rod Bengtson qui disait que les espaces de non sont ouverts au choix des consommateurs et j'ai écouté plusieurs rapports économiques dans les dernières années qui disent qu'ICANN doit ajouter plus de TLD à la racine pour bénéficier la société, que ceci doit être fait avant d'ouvrir les applications. C'est important pour nous, je crois, d'écouter et de connaître la liste d'études connues jusqu'ici. Hier, on a parlé de 1 ou 2 millions de dollars dépensés pour la communauté d'ICANN. Il faudrait revisiter la séparation de registraires et de registres d'octobre 2008. Les analyses préliminaires des nouveaux registres GTL de mars 2009 et le rapport préliminaire de l'impact de nouveaux GTL sur le bien-être des consommateurs de mars 2009, les commentaires de Michaels sur les rapports préliminaires de la compétence pour 2009, les rapports de Dennis Carlton sur les mécanismes proposés pour introduire un nouveau GTL de juin 2009 et le cadre économique pour l'analyse et l'expansion générique des domaines de premier niveau de juin 2010 et vendredi, les considérations économiques dans l'expansion de non générique. Hein, c'est ça la liste. Et dans la cérémonie d'ouverture, j'ai aussi écouté le ministre de la Technologie de la Colombie qui a fait une présentation très détaillée sur la Colombie et l'Internet. La Colombie et le gouvernement de la Colombie investissent 1 800 millions de dollars dans cet effort. Et on dirait que cet effort, malgré tout ce qu'on fait, on ne voit pas le besoin d'arriver à Internet. On dirait qu'il y aura plus d'utilisateurs, plus de demandes, plus de croissance. Moi, je vous propose que si l'infrastructure est en marche, on pourrait avoir de l'innovation et on pourra construire des applications pour les utilisateurs. Il a aussi dit que l'opportunité pour créer l'innovation sur Internet va créer des emplois, va réduire la pauvreté et réduire la concurrence. Et on a parlé aussi de consensus. Des innovations pour les consommateurs et des analogies pour cette expression. Et pour obtenir une quantité solide de la demande des consommateurs. Et dans cette même ligne, M. Plage a demandé comment une famille colombienne pourrait-elle aider et épargner hein, pour avoir un nouveau TLD. Bon, c'est comme faire des économies pour un avion, pour avoir un avion. Mais si on pense à une bicyclette ou à un iPhone, ceci montre un bénéfice pour la société. C'est une innovation importante pour la société. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Je crois que le moment est arrivé de laisser de côté l'imprévisible et de permettre l'innovation et le progrès. Et donc, je me demande si vous pensez à plus d'études. Ceci semble un rapport très détaillé d'un expert qui a été faite pendant une pause café. Hein. Il y a beaucoup de rapports économiques qui essayent de mesurer le succès de projets pour pouvoir continuer à améliorer les différents secteurs et avoir des bénéfices dans différents aspects comme la protection des marques. Mais ton commentaire a été très bon, le résumé que tu as présenté. Hein. Ce sont des mesures qu'on doit mettre en œuvre pour le succès et qui sont très importantes. Kurt, Steve Metallics, je parle au nom de la coalition, du groupe coalition. des organisations, de logiciels et de sociétés de musique. Deux commentaires. Il y a beaucoup de questions sur la communauté, les processus d'objection et d'évaluation de la part de la communauté. Et ceci montre qu'on a identifié un accomplissement de 99%, mais je veux être dans la même ligne de commentaires d'Amadeus. En ce qui concerne le troisième point d'éclaircissement, le COA a fait ce dernier point et on l'a rejeté deux fois. Nous avons besoin de réponses importantes pour la communauté. En deuxième lieu, j'apprécie l'information sur les questions qui seront publiées. C'est très utile, ça. Hein? D'après, au fur et à mesure de l'amélioration et de la tertiarisation, l'outsourcing des possibilités pour minimiser les impacts négatifs pour le nouveau GTLD, ce sera très important et ça va atteindre également les activités d'ICANN. Le public doit avoir l'information nécessaire pour pouvoir poser des commentaires intelligents aux évaluateurs. Hein. Ma question porte sur quelque chose dit par Avry. Hein. Il y a une séparation verticale et une intégration verticale. Et ceci n'est pas seulement lié au processus d'appartenance, hein, parce que c'est toujours nécessaire pour l'enregistrement des nouveaux GTLD. Hein. De la même forme, il y a des situations dans lesquelles il ne serait pas nécessaire d'interdire certains types de registres de GTLD pour entrer peut-être dans un accord d'exclusivité avec certains registraires. On devrait le faire ouvert à tous les registraires. Ce n'est pas le cas peut-être, mais dans certaines circonstances, peut-être. Ceci pourrait se faire. Hein. Donc, dans le processus de décision de l'intégration verticale, quelles sont les considérations qu'on a données aux demandes de registraires? Comment va-t-on traiter cette question? Et les registraires feront partie d'une exclusion quelconque? Est-ce que tu pourrais répéter les dernières phrases? Hein? Les derniers mots? Oui. Donc, au moment de considérer ceci, le processus d'intégration, hein, relâcher un peu les exigences des registres par rapport aux registraires, hein, et l'exigence pour les registreurs qui font des accords d'exclusivité. Hein, donc, ma question porte sur ceci, justement. Je peux te dire oui et non en même temps. Hein. C'est la discussion que nous avons toujours. Nous avons besoin de plus de temps pour discuter tout ceci. Je crois qu'il y a une perception correcte ou non, je ne sais pas. Si une société enregistre, elle peut prendre un GTLD et il y a des registraires qui le font, je le sais. Mais je ne suis pas sûre s'il y a une forme correcte pour le faire d'après le régime actuel. Est-ce que vous pensez qu'un registre peut prendre un registraire et faire tous les registres? Il faut canaliser tous les enregistrements, certes. Je crois que c'est important. Merci. J'ai deux questions. J'ai besoin de clarification. D'abord, par rapport à la sécurité et la stabilité, et dans l'application. Moi, je ne crois pas à la sécurité par la sécurité elle-même, mais je pense que les plans doivent être publiés et mis à disposition du public. Ceci sera considéré parce que d'après votre diapo, on dirait que non. Bon, il y a un équilibre. Quand on parle de ceci, on arrive à la conclusion opposée. Mais il y a eu une réunion avec le SSAC et ils nous ont donné leur opinion. Il y a eu un comité technique. S'il y a une opinion du comité consultatif, on va l'accepter, mais les gestionnaires ne sont pas les personnes appropriées pour répondre à ceci. On dirait qu'il y a un sens à publier ceci, mais les plans de sécurité peuvent avoir un veto public. La partie sécurité qui doit être capturée, c'est la réponse aux incidents et je crois qu'il n'y aura pas d'objection à ceci. Les nouveaux registres doivent avoir des plans solides et ceci et le public doit présenter le veto à ceci. Le travail n'est pas fait pour ça, donc merci. La deuxième partie, c'est si. Croyez-vous que le support IPv6 pour les registres, c'est une exigence pour tous au long de l'opération? Que se passe-t-il avec les données des registraires? Il y a une exigence des mises en œuvre d'IPv6 par les registraires et je ne peux pas répondre ceci au détail. Je vais l'analyser. Nous sommes près de Noël, donc je vous dis joyeux Noël. On dirait que c'est un peu bête de parler de la nouvelle opération de direction IP. Anthony Vancouver, je voudrais faire des commentaires sur l'étude économique. Nous sommes au milieu de ce que je considère que ce sera notre dernière crise économique. Et les économistes actuellement ont les choses difficiles pour comprendre ce qui se passe. Certains veulent prédire ce qui va se passer. Et moi, je pense, je comprends pourquoi ICANN fait des études économiques. C'est parce qu'on l'a accordé au moment de l'affirmation d'engagement. Et moi, je suis totalement d'accord. Et j'espère que vous le ferez au moment de commencer les enregistrements. Et nous devons faire confiance à ICANN. Mais la valeur des études économiques de prédiction est assez douteuse. Je voudrais remarquer un problème fondamental. On dirait que toutes les affirmations de demandeurs de GTLD génériques basées sur la langue latine, bon, si on les compare et si on dit MousePizza.com, par exemple, est pris à New York. Donc, on ne peut pas prendre ce nom ailleurs. Donc, dire qu'on va donner nos concurrences à .com parce que c'est basé sur le .com, mais ce n'est pas restreint, n'a aucun sens. Deux questions. Le premier module comporte des détails importants mais assez limités sur L'extension de l'évaluation. Je voudrais que sur la base des calculs, savoir quelle est la taille d'un lot, parce qu'il y a eu plusieurs changements marqués en rouge, mais il y a beaucoup d'objections aux commentaires publics. Nous devons commencer les applications au lieu de le faire de forme prescriptive et reconnaître tout ceci et savoir que nous allons mesurer l'effectivité du processus d'évaluation. Vous considérez encore que 500 est un lot faisable? Ce qui s'est critique, là, c'est l'évaluation technique des demandes. Notre modèle dit que nous aurons besoin de 75 évaluateurs pour traiter 500 demandes en 4 mois. Ceci continue à être tel quel. Ça me donne une plateforme pour dire que tout ce qui est en rouge, toutes les modifications, toute la discussion publique porte sur le processus des différents, la protection de marques, les TLD communautaires, mais non sur le processus d'évaluation et les critères. Quand on arrive à une réunion et personne ne dit, bon, nous devons éclaircir ces questions-là, bon, on revient donc, on marque, on fait des consultations avec des experts, mais cette partie du guide qui est améliorée par les consultations avec les experts ne peut pas être beaucoup discutée la communauté. Chacun des demandeurs passera justement à l'évaluation là. Donc les choses ne sont pas changées vraiment dans ce sens. Donc vous ne croyez pas que vous pourrez évaluer 500 demandes? Chaque demande est sujet d'une évaluation technique, financière ou autre, mais une évaluation. Et ceci, après, sera mis sur la racine. Nous allons considérer la quantité totale de demandes. Nous essaierons de les inclure dans le modèle. Donc, le chemin critique, c'est justement dans une partie de la demande. Et les processus d'objection seront inclus également. Deuxième question. Ce matin, vous avez dit que l'effectivité de sauvegarde d'AOC sont plus importants que ce que nous considérons. Ceci n'est pas lié peut-être à un concept de lot pour évaluer la protection de droits. Ceci n'est pas lié à la capacité technique, peut-être, de nouvelles préoccupations pour savoir si nous pourrons considérer les protections des lots. Il y a une Internet, il y a des pratiques de TLD, et tu présentes un point et moi un autre. Qu'est-ce que nous faisons? On essaye donc que cette version de DNS soit plus stable pour les utilisateurs, pour le registraire, pour le registre, pour le commerçant, pour que tous puissent avoir des bénéfices. Donc, la communauté, comme vous parlez du code malveillant ou d'un comportement malveillant, bon, qu'on sache ce que c'est. Et que le groupe de hameçonnage et d'RISG nous montre des choses que nous puissions mettre en œuvre. Parce que nous avons considéré les personnalités plus importantes dans le monde sur ces questions. Et ils nous ont donné des solutions, mais qui ne satisfont pas tout le monde. La question n'est pas si les solutions sont bonnes ou mauvaises, mais si, une fois lancées, s'ils seront efficaces ou non. Ce sont des processus nouveaux. Nous ne savons pas s'ils fonctionnent bien ou non, mais nous savons qu'il y a quelque chose en marche. Et pour le faire de forme simultanée avec des centenaires d'applications, avec signatures de racines constamment, bon, ceci prendra un temps plus long de ce qu'on avait imaginé. Hein? Nous croyons que nous le faisons de forme stable. Merci, Kurt.
Je veux signaler quelque chose par rapport à l'utilisation des marques de Chetel. Si nous revenons au rapport économique, spécifiquement, on a signalé l'inefficacité d'utiliser les registraires comme Pico. Il faut aller dans une autre société pour enregistrer. On utilise encore une fois le mot inefficacité. Dans le panel, on a parlé de registrar et d'autres éléments dans le processus de registration et comment ceci impliquait une menace potentielle. Au nom de tous ces sujets que l'on a traités et que l'on signale, je crois que le GAC, comme partie de l'ICANN, doit faire des commentaires pour expliquer cela et l'intégration verticale. On demande au conseil d'administration de faire les choix des propositions pour obtenir des solutions, mais j'aimerais obtenir une information de ce que vous considérez et de ce que vous ne considérez pas, parce que le rapport nous dit qu'il n'y a pas de besoin pour les registrars, mais on a décidé de ne pas l'adopter, et cela est important. C'est quelque chose de très important à considérer parce que l'ICANN peut imposer alors l'utilisation ou l'ICANN peut imposer au registrat certaines régulations. Peut-être ce n'est pas la réponse correcte. Non, c'est bien ce que tu dis. Écoute, toutes ces personnes sont concernées avec le processus de sécurité et de stabilité. Je vais signaler deux choses. L'une d'elles, si le Conseil a décrit les discussions menées dans les motivations du rapport et si l'on va publier le rapport du Conseil d'administration, l'une des discussions que l'on a menées pendant l'étape d'évaluation et la suivante, à savoir si nous sommes d'accord du fait de ne pas avoir des registrars pour certains registres, cela implique un accomplissement ou un respect très complexe. Il faudra monitorer les registrars pour garantir qui vont être des employés, quel est le GTLD qui va être mis en œuvre. Voilà un travail qui va être très cher et peut-être on n'est pas prêt pour ce faire. Je ne suis pas très d'accord avec ton affirmation. Et Steve a signalé aussi que le TLD et les registrars sont en quelque sorte superflus, mais je crois qu'il faut mener une discussion de politique pour clarifier cela et pour identifier les cas où les registrats n'ont pas besoin de ces exigences. Il faut donc développer des critères sur la base des commentaires publics pour pouvoir améliorer tout cela. Ils ont fait un appel au conseil d'administration pour l'intégration verticale et je crois que ta suggestion vis-à-vis de ce qui est complexe et pour voir la manière de gérer tout ce qui progresse, je vais signaler, je vais mentionner ce que Steve a dit. On ne peut pas répondre 500 de la même manière. Il a oublié de dire la date exacte où l'on va prendre les applications ou les demandes ou les candidatures. Peut-être je deviens vieux, mais je n'ai pas compris votre réponse vis-à-vis de la signification de l'entité du gouvernement dans la version préliminaire. Ceci est important pour moi et pour les citoyens et pour les villes, par exemple Paris ou Barcelone. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués aux arbitrages. Ce sont des villes qui ne sont pas habituées aux arbitrages.
elles ne sont pas en mesure de mettre en œuvre ce concept. Et il va y avoir de plus en plus de candidats qui vont respecter ces points. Peut-être faudrait-il créer une nouvelle entité pour traiter cette problématique. On ne peut pas former une nouvelle entité. Pour mener ceci à bien, parce que peut-être ce n'est pas quelque chose de légal. Si ces personnes, si ces registres n'existent pas, peut-être ils ne peuvent pas présenter leur candidature. Deuxièmement, les marques. Il n'y a pas de marque déposée. Il y a beaucoup d'associations d'ingénieurs concernées. Et troisièmement, il y a eu un exemple où on a vu que l'on n'avait pas pu finir le registre. Ceci est en rapport avec la discussion du point 4 et voir si l'on a approuvé ou pas. Il n'est pas important de parler de point 4 ou pas. L'important, c'est de savoir qu'il s'agit d'un nom unique et de voir qui peut l'enregistrer, si ce nom appartient à la communauté ou pas, si ce nom est important ou pas. Et d'autre part, il faut penser à l'accomplissement, à l'existence de l'accomplissement, si l'on parle de l'éligibilité du contenu d'utilisation, ce sont des choses différentes. Lorsque, en réalité, on applique l'un ou l'autre pour l'élection des noms, c'est-à-dire, on doit dire tous les membres de la communauté vont appliquer ou vont demander ou vont présenter leur candidature et ils ne vont utiliser qu'un nom X. Alors, on n'a pas besoin de contrôle pour ce faire parce que peut-être, par exemple, si l'on parle Google va utiliser son nom, bien sûr. Et la même chose avec le point musée ou museum en anglais. Qu'est-ce que l'on fait pour les noms? Le contenu de l'utilisation. Vous pourriez parler plus lentement pour que les interprètes puissent traduire correctement vos propos. Merci. C'est-à-dire, je vous demande, je m'excuse, mais ceci me provoque beaucoup d'émotions. Tout cela doit avoir les mêmes objectifs et créer le moindre niveau de conflit possible pour la communauté à l'intérieur et en dehors de la communauté. Si l'on fait la sélection de noms, alors on ne fait pas la vérification des usages et des contenus parce que la sélection de noms serait peu pratique. De sorte que je vous prie de ne pas faire de cela une... C'est-à-dire, les deux choses ne sont pas appliquées. C'est l'une chose ou l'autre, pas les deux ensemble. Pour ce qui est de l'opposition, je vais dire que s'il y a de l'opposition, il y a de l'opposition et la communauté doit essayer de traiter cette problématique. Je crois que ceci va suffire. Il y a des réponses pour lui? Je suis membre du staff de l'ICANN. Il y a beaucoup de questions qui apparaissent. Je crois que les commentaires écrits sont les plus utiles. Et pour ne pas répéter des questions, notamment pour ce qui est de qui peut prendre ou accéder à l'accord modifié. Si ceci est appliqué aux entités gouvernementales ou pas. Voici une question compliquée. Parce qu'il y a des sociétés privées, des associations civiles et des négociations que l'on mène, bien entendu. Alors, peut-être pourrait-on avoir un guide qui puisse nous aider Deux commentaires de plus. On a déjà trop parlé du coût, hein? Ça, ce sera une barrière potentielle pour beaucoup de gens qui sont dans un comté de marché émergent sans beaucoup de ressources ou des personnes qui veulent l'obtenir. Mais on parle ici de la compétitivité des 500 candidatures et de l'effort que ceci va représenter pour l'ICANN. Dans notre groupe, on a parlé de pouvoir offrir un groupe d'applications en utilisant différents scripts de IDN, qu'il y ait plus d'IDN dans la racine. Et à Bruxelles, vous avez accepté cette idée. Alors, comment pouvons-nous avancer? Tu devrais décrire ce que tu veux dire. L'idée, c'est que nous voulons un nouveau GTLD dans des scripts multiples. On ne peut pas construire des scripts plus petits si ceci est inclus dans un total de 185. Mais si on va l'inclure dans un paquet de 6, là, il va y avoir un paquet total. À Bruxelles, vous avez accepté cela, je crois. Je crois qu'à Bruxelles, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit le contraire, hein? Mais le coût du nouveau programme TLD, va concerner tous les chats, et ça, il faudra l'absorber. L'achat en paquet. Attendez, voilà. Le défi est le suivant. Si l'on est dans une situation digitale, le problème, c'est que si nous parlons de l'arabe ou de l'aramé, par exemple, ce sont des langues qui ne peuvent pas arriver sur le web parce que le 185 va être trop élevé pour qu'ils puissent le récupérer. Ce que l'on dit, c'est bon, perdez votre langue, perdez votre script. Et l'idée est quelque chose qui ne va pas arriver. Comment peut-on considérer les langages non privilégiés ou les communautés non privilégiées? Je comprends bien ce que tu dis. Eh bien, ne fais pas oui avec la tête, hein? Nous essayons de nous diviser entre ceux qui cherchent des réductions pour leurs achats quand on établit des critères pour voir qui a vraiment le besoin. Je parle en nom propre. Je tiens à remercier au conseil d'administration d'avoir respecté l'horaire. Et je suis vraiment préoccupée du fait de perdre quelque chose de nouveau. Ceci s'est passé pendant les 6 dernières années. La dernière nouvelle importante a été en 2006 pour que le processus soit fini fin décembre 2004. On a un retard de 6 ans. Si nous analysons la cause, peut-être la raison est compréhensible. Et je crois que nous avons face à nous la photo de la ville. Et voilà, nous avons aussi une métaphore à considérer. L'Internet est une ville, en quelque sorte. Il faut faire un planning de la ville. Il doit y avoir un processus. S'il n'y a pas de processus ou si le processus est en retard, ceci devient fondamental. Nous pouvons imaginer une ville où l'on n'est pas programmé les futures constructions. Alors, imaginez comment ça va se passer. Ceci nous mène à des idées pour voir comment il faut mener à bien le processus. Si l'on n'est pas prêt avec le processus tel quel, s'il y a des préoccupations sur les marques, par exemple, pour ce qui est des externalités et du vocabulaire que l'on va utiliser sur les coûts externes qui deviennent excessifs, pourquoi on ne présente pas comme une objection? Pourquoi ne pas établir un filtre additionnel et dire, bon, il va y avoir une objection à une proposition spécifique
qui a été considéré comme non acceptable pour les parties prenantes. Nous pouvons avoir les mêmes effets dans le modèle. Il ne s'agit pas seulement des droits. Merci. Un bon commentaire. Je tiens à vous remercier du temps et de l'énergie que vous avez consacré à ce processus. Et je vous souhaite une bonne réunion. Merci.
Au revoir.